wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute littérature. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Jacques Hubert, réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Raphaël Léris et Alexandre Comte. C'est une première pour Alexandre. Encore un nouveau dans cette émission, vraiment cette rentrée amène un vent frais. Les anciens tremblent chaque soir. Bienvenue à vous, Alexandre. À notre sommaire, La robe blanche de Nathalie Léger, publiée chez POL. La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe aux éditions de L'Olivier. Il y aura un coup de cœur. Ce soir, c'est Raphaël Léris qui dévoilera le sien pour Toutes les femmes sauf une de Maria Pourchet chez Fayard. Donc trois auteurs heureux ce soir. Et puis un petit salon qui va parler d'une polémique autour du livre auto-édité de Marco Poscas, Lucille Como. Nous en dira plus tout à l'heure. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour aller voir le film La saveur des ramen d'Éric Coux qui est sorti hier sur les écrans. Et nous ouvrons cette dispute avec le nouveau livre de Nathalie Léger, un auteur à qui il n'aura fallu que deux livres pour que j'attende avec impatience le suivant. Après l'exposition et supplément à la vie de Barbara Loden, voici donc La robe blanche. Et toujours cette même façon de croiser la vie d'une figure extérieure et la propre biographie de l'auteur. La figure extérieure, cette fois, c'est une artiste performeuse italienne, Pippa Bacca, partie de Milan le 8 mars 2008 pour rejoindre Jérusalem en autostop, vêtue d'une robe de mariée avec la volonté de traverser les pays en guerre pour que peut-être la traîne de sa robe en efface les horreurs. Mais Pippa n'est jamais arrivée à Jérusalem, elle a été violée et assassinée non loin d'Istanbul.
Now the flames, they follow Joan of Arc. She came riding through the dark. No man to keep her armor bright. No moon to get her through this dark, this very smoky night.
She said, I'm tired of the war. What the kind of work I had before.
Il y a des dons qui sont faits d'une main faible, un peu molle, comme pour affaiblir le geste trop puissant du cadeau. D'autres qui sont faits avec brutalité, avec arrogance. C'est à cause de la gêne. Ce n'est pas facile de donner. La gratitude de celui qui reçoit est encombrante. Et d'autres sont faits sans qu'on s'en aperçoive. Quelque chose est donné en passant et on ne le sait pas. On met longtemps à le savoir. Cette femme apparaissant sur les routes, entre les voitures, au détour d'une rue, dans sa robe sale, c'était peut-être ça, l'offrande gracieuse d'on ne sait quoi, une apparition dégagée de toute causalité, un geste fait pour rien. Sur les images qui restent de ce voyage, on la voit souvent nimbée de lumière, c'est le blanc de l'énorme robe en contre-jour, c'est toute l'intention de son voyage, une nuée idéaliste, le désir de réparer, le désir de répandre le bien, non pas le bien lui-même, mais son idée. Et il n'est pas certain que cela soit suffisant. Il est même certain que cela soit tout à fait insuffisant. Mais il se peut, inversement, que le bien ne puisse être rien d'autre qu'une idée. Et il se peut que cette idée compte. Il se peut qu'il ne soit pas toujours nécessaire que les faits viennent confirmer une idée pour qu'elle soit juste. Et il se peut aussi le contraire. J'aurais voulu parler de tout cela avec ma mère dans la brume bleutée du soir qui tombait sur le jardin, tandis qu'à travers les bouquets d'arbres odorants et les persiennes à demi fermées, les lumières du salon donnaient de loin l'illusion criante du bonheur. J'aurais d'ailleurs tort de dire que c'est la bonté de Pippa qui m'a attaché à son histoire. Ce n'est pas son intention qui m'intéresse, ni la grandeur de son projet ou sa candeur, sa grâce ou sa bêtise. C'est qu'elle ait voulu, par son voyage, réparer quelque chose de démesuré et qu'elle n'y soit pas arrivée. Une sophistication de la réalisation de cette émission, vraiment qui m'enchante. Merci à Thomas Beau et à Jacques Azubert qui sont aux manettes. Bon, très sérieusement, La Robe Blanche, Nathalie Léger. Tiens, si c'était Lucille Gaumont qui commençait à en parler. Surprise, hein ?
Tout à fait surprise.
Alors, c'est bien, je vous surprends encore.
C'est, comme elle le dit au départ, c'est un livre sur une question tenue à part. J'aime beaucoup l'euphémisme de ce qui va se développer et gonfler au fil des pages. Une question minuscule, elle dit. Et en fait, c'est un grand, grand projet dans un tout petit livre parce qu'il est très court et très dense. C'est tisser le fil d'une réflexion sur la performance et tout ce que la performance artistique peut avoir de violent et d'engageant jusqu'à la mort même. Et la revanche sur un passé familial, en l'occurrence ces violences vécues dans le cadre de la conjugalité telle que la plus banale, la plus classique, bourgeoise des années, on le devine, 60-70. Donc en fait, ce que construit Nathalie Léger dans ce tout petit texte, c'est un gros double mémorial avec plusieurs enterrés et plusieurs enterrés dans leur robe blanche, comme le veut la grande tradition romantique. Et cette robe blanche, elle fonctionne... on peut dire comme un fil rouge, mais en fait c'est plus que ça. Elle fonctionne comme un signe poétique, parce que la langue est profondément poétique, dans laquelle se dépose tous les exemples de performance, tout, parce que c'est aussi une anthologie artistique, et toutes les significations de ce que peuvent être les violences vécues par les femmes. C'est un livre qui est très impressionnant, qui est assez bouleversant. Moi j'ai même... pleurer à la fin, enfin, ça m'a quand même assez bouleversée. Et en même temps, peut-être justement pour ça, j'ai des doutes sur la fin, j'ai des doutes sur la tournure que prend le livre, parce que la manière dont le récit se plonge d'un seul coup dans les dernières pages, bon, je ne vais pas trop révéler, mais quand même, dans les dernières pages, se plonge à plein dans quelque chose qu'elle refuse de faire tout au long, c'est-à-dire en effet venger sa mère, accepter ce gros dossier des injustices et des petites humiliations, je trouve que c'est assez déceptif par rapport au projet. En fait, elle ne fait que citer en permanence et expliquer magnifiquement des exemples de grandes œuvres féminines sur la femme, sur la violence faite aux femmes. Et ce que ça arrive, ce que ça fait accoucher, c'est finalement, mais je pense que c'est fait exprès, hein, j'en suis même certaine, c'est tellement maîtrisé, mais en tout cas, c'est le récit des petites humiliations quotidiennes qui sont d'un seul coup racontées sur un mode beaucoup moins poétique à la fin, beaucoup plus trivial, parce que l'écriture l'est davantage, je crois. Et pour moi, il y a eu un effet très déceptif au livre. Alors, encore une fois, c'est pas déçu, c'est voilà, déceptif. Mais bon, je vais laisser...
Je reviendrai vers vous, Lucille. Alexandre Comte, premier regard sur ce livre de Nathalie Léger, La Robe Blanche.
De petites humiliations, moi je trouve que ce qui est intéressant à la fin, c'est qu'en fait on découvre, et la narratrice Nathalie Léger, on suppose en tout cas la narratrice, découvre que c'est une grande humiliation qu'a subie sa mère. Finalement, elle a été dépossédée de sa vie, elle a été abandonnée. Alors, ce qui pourrait être un divorce banal, en fait on comprend que c'est dur pour une femme qui perd à la fois, évidemment, ses moyens financiers, mais aussi, par-delà ça, quelque part, toutes ces qualités qu'on lui prêtait comme maîtresse de maison. Enfin, il y a une terrible scène au tribunal où elle est traitée comme moins que rien. Et on comprend à ce moment-là, et je pense que la fille, à ce moment-là, comprend ce qu'elle a pas voulu comprendre, peut-être. Je parle de l'intelligible, là, évidemment. Tout au long du livre, elle comprend que le malheur... Elle dit à un moment au début du livre, c'est un petit malheur, un malheur commun, un malheur comme les autres. Je pense qu'à la fin, elle comprend que non, que le malheur dont sa mère rabâche le malheur, elle comprend qu'il est fort, qu'il est puissant et qu'il lui a vraiment retourné sa vie, qu'il a bouleversé sa vie. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'en empare.
Raphaël Léris, Nathalie Léger, et vous ?
Alors, moi, j'ai énormément aimé La Robe Blanche. Donc, peut-être que pour plus de simplicité, enfin, de limpidité pour l'auditeur, et on peut expliquer que le principe qui agit le livre, c'est que la mère de Nathalie Léger, alors que Nathalie Léger veut raconter l'histoire de Pipa Bacca, sa mère lui dit non, il faut que tu me rendes justice en racontant mon histoire, et ces deux histoires n'en font qu'une. Donc il y a ça, et il y a donc cet empêchement que produit la mère sur la fille en retardant en permanence le moment de parler de Pipa Bacca. Et moi, ce que je trouve très beau, c'est que ce qui est présenté comme un empêchement donne une dynamique au texte. Et pour moi, c'est un très beau livre sur la consolation. Elle écrit assez tôt, Nathalie Léger, qu'elle a longtemps un peu méprisé le malheur de sa mère, trouvé qu'elle avait des petits mouchoirs humides, enfin que tout ça était quand même pas très sérieux. Et puis, à mesure du texte, en se plongeant dans ce dossier qui est comparé à un foie et puis à une pierre, enfin il y a des comparaisons très très belles du dossier de justice. Et donc en finissant par s'y confronter, elle découvre que c'est un vrai malheur, qu'il y a une véritable violence. Et donc pour moi, c'est un très beau texte sur la consolation, parce que la question qui est-ce qu'un geste artistique peut suffire à réparer, alors les injustices d'une guerre ou les injustices d'une vie, donc même si on ne peut pas les mettre sur le même plan, au fond, ce que dit ce texte, c'est le geste même ne peut pas le réparer, mais l'intention est une forme de consolation, et pour moi, c'est ce qu'il y a de très émouvant dans ce livre.
Oui, mais je ne vous apprendrai pas que notre besoin de consolation est impossible à rassasier, comme disait l'autre, et que donc il y a des livres encore à venir, sans doute, de Nathalie Léger. Je dois dire que, pour une raison que je n'ai pas vraiment identifiée, j'ai eu du mal à entrer dans le livre. Je l'ai commencé plusieurs fois, en fait, pendant l'été, ça coinçait pour moi. Alors, peut-être aussi, il se trouve que je connaissais bien l'histoire de Pipa Bacca, et que ça m'a un peu surpris de découvrir cette figure-là qui est effectivement pas la plus connue, mais c'est lié à un film, d'ailleurs Nathalie Léger en parle, que moi-même j'avais vu, donc ça, il y avait cette surprise-là, mais cette fois encore, je trouve que le choix après la comtesse de Castiglione, qui était l'héroïne, l'une des deux héroïnes, c'est toujours, il y a au moins deux héroïnes chez Nathalie Léger de son premier livre, après Barbara Loden, Pipa Bacca, c'est quand même un choix encore très fort, parce que elle ouvre en grand, parce que c'est vrai, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais c'est un petit volume, hein, 130 pages, petit format, petite page, donc, mais que ça ouvre très 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 grand les façons de parler effectivement d'un même sujet, l'humiliation et le désir de réparation, désir forcément un peu impossible. Alors on ne peut pas réparer, mais on peut faire quelque chose, un acte, une performance. Et d'ailleurs, on verra que ça se croisera jusqu'au bout. Ce livre de Nathalie Léger, l'histoire de la performance. Vous le disiez, anthologie, Lucille, comment il y a de ça, beaucoup d'exemples. Et puis la littérature, comme toujours, est très présente. Moby Dick est un livre qui revient souvent dans ce texte aussi de Nathalie Léger. Mais moi, ce qui me fascine assez, parce qu'une fois que j'y suis entré, j'y suis tout à fait bien entré, c'est que ça ouvre à chaque fois des perspectives de réflexion pour le lecteur vraiment assez assez immense. Et quant à la fin, je ne sais pas si on peut en parler plus que cela, il ne s'agit pas de déflorer, mais quand même de pas trop divulgâcher, il y a au moins une double fin, Lucille Comeau, je ne sais pas laquelle vous pose davantage problème que l'autre, ou laquelle vous trouvez plus déceptive que l'autre. En tout cas, la fin est absolument
très sombre.
M'a laissé absolument sans voix, puisqu'on finit quand même sur la mort, on va dire, bien réelle de Pipa Bacca, et pas la mort symbolique de la mère. Mais quand vous dites déceptif, en essayant de creuser un peu de ce côté-là, sans trop en dire non plus.
Oui, en fait, je vais essayer de développer. En fait, ce que je trouve très beau dans toute la première partie du livre, c'est comment la narratrice se débat avec tout un système de protocoles que sont les protocoles de la performance. Donc, elle en décrit tout un tas de type toutes les performances des années 60, 70, de Niki de Saint-Phalle, jusqu'à même, elle parle de Claire Simon, de la manière dont elle fait travailler ses étudiants en cinéma en leur demandant de pitcher en une minute un film parce que c'est la longueur du film des Frères Lumière et que c'est comme ça qu'on arrive à un projet. Que je trouve intéressant, par ailleurs, sur la brièveté du récit. Et tous ces protocoles, on dirait qu'à un moment, il la lâche, en fait. Elle les met en place, et c'est là que le récit est, à mon avis, un échec. Après, ça veut pas dire que c'est un échec de mon point de vue. Je pense que, justement, c'est pas un récit de consolation, parce que tous les protocoles échouent devant la souffrance intime, et que, du coup, quand surgit la souffrance intime, les moyens artistiques lâchent. Et je trouve que ça se voit dans l'écriture qui devient plus classique, beaucoup plus lyrique, avec des formes assez, assez connues de pathétique, enfin d'un pathétique littéraire plus daté, entre guillemets. Et ça me plaît moins, et enfin ça me plaît moins probablement aussi parce que ça me déprime un peu, que ça ne fonctionne pas et qu'on n'arrive pas à éviter justement de parler de la souffrance de la mère. Je pense que l'évitement qu'elle essaye de mettre en place et qui ne fonctionne pas, pour moi c'est une grande violence, mais bon, c'est personnel.
Parce que c'est pas le sujet du livre.
Oui, sûrement, voilà. Mais du coup, c'était pour décrire le livre. C'est pas du tout un reproche que je fais à l'écriture. C'est juste.
Non, c'est votre expérience de lectrice, en l'occurrence.
Ce que je peux vous dire, c'est les toutes dernières phrases, peut-être les quatre dernières phrases du livre qui m'ont effectivement un petit peu choqué. Elles sont d'une dureté, elles sont terribles. Pour autant, je trouve que c'est un roman qui est évidemment très sombre, mais pas pessimiste.
Alors, nulle part, il est écrit roman, hein. Cas chez POL la plupart du temps, mais chez Nathalie Léger, il n'y a jamais écrit
roman.
C'est vrai
qu'il n'y a pas écrit roman.
Pas de genre.
Effectivement, on est sans genre, on est ni
pas de récit, pas de roman.
On ne sait pas vraiment.
Je vous ai interrompu.
En tout cas,
dans ce livre.
En tout cas, voilà. Ces quatre dernières phrases sont donc très noires, moi un peu, je les ai pas comprises, pour être très franc, en tant que lecteur. Pour autant, je trouve que vers la fin, moi, elle y arrive à redonner l'espoir, à rendre hommage à travers ses mots à elle, de Nathalie Léger, et à rendre hommage à la fois à Pippa Baka qui est malheureusement décédée dans des conditions en plus terribles, mais aussi à sa mère. Et je trouve qu'à la fin, finalement, pour moi, l'hommage est rendu, la littérature a réussi à faire revivre Pippa et à faire peut-être, on l'espère en tout cas, revivre leur relation même de mère et de fille aussi à la fois.
Ouais, enfin cette fin, c'est l'abîme, enfin, et c'est bien vers là que va ce livre d'une certaine façon, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? On est soit au bord d'un précipice, très littéralement, comme sa mère, où on est face au néant du crime et du crime le plus, comme toujours, à la fois le plus vil, le plus absurde, le plus auquel aurait pu échapper Pippa Baka, mais qui avait posé notamment dans son protocole de monter avec n'importe qui s'arrêterait pour la prendre en stop, de ne jamais refuser de monter dans un véhicule. Raphaël Deris.
Elle explique très tôt que la beauté ou la force d'un geste artistique n'est pas tellement l'aune à laquelle on peut le juger, ou sa réussite ou son échec, que c'est pas le sujet, que ce soit bête ou très intelligent, tout ça n'est pas le sujet. Donc c'est là que pour moi, qu'elle évite le protocole ou pas, au fond, est pas tellement la question. Je trouve qu'elle fait justement en sorte de s'en tirer par rapport à ça, en ayant posé très tôt que le dispositif, c'est le simple fait qu'il y ait un dispositif, qu'il marche ou pas, n'est pas tellement la question, et que c'était le simple fait qu'il y ait un dispositif qui apportait quelque chose, réparation, consolation ou... enfin voilà, il me semble que donc moi de mon point de vue ça n'est pas un ratage. Après ouais, les dernières pages sont vraiment terribles, mais moi je voudrais souligner qu'il y a une dimension de comédie familiale qui est très très drôle dans le livre par ailleurs. Je pense qu'on pourrait essayer de donner envie d'y aller. Non vraiment, je trouve que de ce point de vue-là, elle réussit quelque chose de un texte très très large et très fort aussi parce qu'il y a un nombre de registres du tragique et du comique qui est assez formidable.
Dernier mot, Lucille Comeau.
Oui, c'est ce que je voulais dire sur l'humour parce que c'est vrai qu'il y a des pages vraiment très drôles, notamment il y a la description des femmes amies, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas des femmes que reçoit régulièrement la mère de la narratrice dans son jardin. Donc elle habite dans le sud, vers Nice, on devine, et qui sont leurs vieilles peaux au soleil, et à qui elle essaye d'expliquer son projet sur Pippa Baka alors qu'elles sont en train de faire des mots croisés. Et c'est vraiment parmi les plus belles pages et les plus drôles que j'ai lues dernièrement. Et aussi il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire, même à des moments les plus vraiment critiques de la relation mère-fille. Par exemple, elle parle donc de toutes les robes de mariée qui sont comme des signes dans toutes les œuvres artistiques. Par exemple, elle parle de Kill Bill 3 à un moment donné. Et puis à un moment, elle parle de sa mère, elle dit, elle se penche encore et susurre comme aurait pu le faire Tarantino en personne, la vengeance n'est pas une ligne droite, c'est une forêt. Je trouve ça hyper drôle de l'imaginer avec la voix de Tarantino et la tête quand même de Tarantino. Il y a beaucoup de ce genre d'images qui sont vraiment très suggéré, c'est une écriture extrêmement suggestive, mais ils sont très drôles.
Voilà, on finit sur un rire. Pour parler de la robe blanche de Nathalie Léger chez POL, il fallait le faire, de finir là-dessus, mais c'est bien parce que ça fait partie absolument du livre et de l'écriture de Nathalie Léger. À suivre dans la dispute La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe, le coup de cœur de Raphaël Léris pour Maria Pourchet, et puis un petit salon de Lucille Comeau.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute littéraire avec le nouveau roman d'Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, publié à l'Olivier, beaucoup d'auteurs français ont eu un jour l'envie d'écrire leur grand roman américain. Agnès de Sarthe a sauté le pas. Elle entraîne avec elle une famille française en Caroline du Nord, le père poète et philosophe qui doit enseigner un an dans une fac, la mère au foyer et puis le fils adolescent. Tous vont essayer de différentes façons de se réinventer loin de Paris, Paris où vont se produire les attentats de novembre 2015. Hector avait une femme, elle s'appelait Sylvie. Ensemble, ils avaient un fils, il s'appelait Lester. Un prénom anglais parce que la famille paternelle d'Hector était originaire de Penzance, en Cornouailles, ou plutôt d'une bourgade située au nord de cette station balnéaire, un village dont on taisait le nom par amour du secret. Récemment, Lester avait demandé à ce qu'on appelle autrement. Cela s'était passé dans l'avion, au-dessus de l'océan Atlantique, à peu près au milieu, mettons. Là où, avait songé l'adolescent, passagers et équipage seraient irrémédiablement perdus si, par malheur, l'appareil venait à s'abîmer. Même si l'amérissage est possible, avait-il spéculé, nous sommes si loin de tout, si détachés de la Terre, que nous mourrons. Nous ne mourrons pas dans les flammes, nous ne mourrons pas sous le choc, corps lacéré par les éclats de carlingue, nous mourrons, comme sont morts les marins, les explorateurs, de faim, de tristesse et d'angoisse. Cela ne lui faisait pas peur. Il avait 14 ans et s'exerçait fermement à la sagesse. Nous mourrons. Assis entre son père et sa mère, lui plongé dans un journal, elle lisant la même page de son livre depuis le début du vol, parce qu'elle n'arrivait pas à se concentrer, qu'elle l'espionnait, car oui, elle espionnait son fils qui l'inquiétait, sans qu'elle le reconnaisse, sans qu'elle en parle. Lester envisageait leur disparition avec sérénité. Alors qu'il s'imposait un rythme de respiration de 5 secondes à l'inspire et 10 à l'expire dans l'espoir de faciliter son entrée en méditation profonde, paume tournée vers le haut et paupières closes, une menue gerbe d'eau lui avait arrosé le visage. Ce n'était presque rien, le contenu de la bouche d'une grenouille farceuse qui, pour jouer, lui aurait craché dessus. Mais ce n'était pas une grenouille, bien entendu, c'était Léonie, l'hôtesse, atteinte d'un rhumatisme aigu et qu'il n'avait dit à personne parce qu'elle aimait les voyages, son uniforme et redoutait un licenciement. Une pointe douloureuse au niveau du genou l'avait fait trébucher juste au moment où elle débarrassait la boisson d'un homme assis de l'autre côté de l'allée. L'eau avait jailli. « Oh pardon, pardon mon grand, comment t'appelles-tu » lui avait-elle demandé en l'épongeant avec douceur. Le garçon l'avait regardé attentivement, le fond de teint rendait sa peau lisse et veloutée, comme celle d'une pêche lavée. Elle avait de gros yeux noisettes d'animal, un petit foulard noué autour du cou. « Absalom, Absalom » avait répondu Lester. « Absalom, c'est rare, et comme c'est joli !» Absalom, Absalom, avait corrigé Lester. C'est une sorte de nom composé, si vous voulez, comme Jean-Jacques, sauf que c'est le même deux fois. Alors là, c'est le tout début hein, du livre d'Agnès de Sarthe, La chance de leur vie, que je viens de lire. Et c'est Raphaël Léris, dont on a pu lire l'amour pour ce livre dans les colonnes du Monde, qui ouvre notre discussion.
Donc, alors, Agnès de Sarthe, c'est une écrivaine qui, depuis 22 ans, travaille l'étrangeté comme une matière. C'est vraiment son sujet. Alors, ça fait des textes qui sont souvent du côté du surnaturel et du merveilleux. Et elle a un rapport à la langue qui la traite aussi comme une matière étrangère, et elle l'avait raconté un peu pourquoi dans Comment j'ai appris à lire, qui est un essai vraiment très très fort. Voilà, et donc là, l'étrangeté, c'est la donnée de base de la chance de leur vie, donc puisqu'elle envoie cette famille de Français et qu'elle en fait c'est des corps étrangers. Corps étrangers, c'est le titre d'un livre de Cynthia aussi qu'elle a traduit. Et c'est vraiment la situation. C'est une histoire de corps qui sont plongés ailleurs, il me semble, beaucoup la chance de leur vie. Donc il y a Lester, cet adolescent.
Absalom,
c'est, disons Jean-Jacques, c'est, ça me fait hurler de rire. Je trouve qu'il faut vraiment avoir du génie pour trouver cette phrase. Donc le corps d'Hector qui a 60 ans et qui d'un seul coup va se transformer. Considéré comme une sorte de Derrida après Derrida sur le campus de Caroline du Nord, va se transformer en bel étalon philosophe, voilà. Et Sylvie.
Derrida.
Et Sylvie, qui elle est aussi le grand élément d'étrangeté de ce texte, c'est-à-dire que Sylvie, c'est un personnage qui se conforme au dogme taoïste du non-agir, c'est-à-dire que c'est un personnage incroyablement exotique, puisqu'elle veut absolument n'être rien, elle ne veut pas froisser le drap du temps, elle ne travaille pas, mais elle ne s'intéresse vraiment pas particulièrement à la vie domestique, ce qui lui laisse un temps immense pour la contemplation. Et c'est ce qui en fait un regard qui me plaît énormément, qui donne une puissance assez, assez folle à ce texte. Donc ça n'est pas elle la narratrice. Là, on a vu, on commence à côté de Lester, qui est lui-même un personnage pas piqué des hannetons. Mais généralement, on est aux côtés de Sylvie, on entend sa pensée. Et ça, je trouve que ce personnage nous plonge dans une vie intérieure, moi, qui m'éblouit par sa profondeur, son intelligence, et donc par tout ce que ça nous ouvre comme réflexion sur le couple, sur le monde dans lequel on vit. C'est un grand livre sur le secret à l'intérieur des familles, le secret à l'intérieur des couples, et le secret, le fait qu'il n'y a plus d'ailleurs, que tout est su toujours, tout le temps, à la minute où les choses se produisent, on est mis au courant, et donc on ne peut plus échapper à rien, et comment on fait quand on est toujours touché par quelque chose. Voilà, tout ça pour dire rapidement que j'adore ce livre.
Vous le direz encore un peu tout à l'heure, sans doute. Alexandre Comte, sur celui d'Agnès de Sarthe.
Moi aussi, j'adore ce livre, mais alors, au début, j'ai eu très très peur. Je me suis dit, j'adore Jonathan Franzen, mais je me suis dit, ça va être du Jonathan Franzen à la française, ou du sous-Jonathan Franzen, version expatrié français aux États-Unis. Finalement, ça se révèle beaucoup plus que ça, comme vous le disiez, Raphaël. Et ce que j'aime beaucoup, on est toujours dans cette Amérique chic et cultivée, mais surtout, c'est une enquête. Pour moi, c'est le personnage de Sylvie et Lester, Absalom, c'est les deux personnages les plus forts du livre. Hector, je le trouve un peu en retrait. Mais moi, cette Sylvie m'a passionné. Je suis tombé amoureux du personnage complètement. Je trouve qu'elle est pleine de mystères. Alors, effectivement, c'est quelqu'un, elle est complexe, elle n'agit pas en même temps. On comprend peu à peu son passé sans vraiment le comprendre. Moi, jusqu'à la fin du livre, je ne l'ai pas vraiment compris, mais je sais que je l'aimais en tout cas. Et je trouve ça c'est rare. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu un bouquin où finalement un personnage me semblait complètement existant et mystérieux en terminant la dernière page. Donc ça m'a beaucoup frappé. Et puis ce Lester, effectivement, qui est intéressant aussi. Absalom, comme vous disiez, Arnaud. Alors c'est vraiment un personnage loufoque au possible. C'est un jeune adolescent. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si c'est un début de schizophrénie qui s'annonce. On ne sait pas si c'est finalement un psychopathe, s'il a une révélation mystique, mais en tout cas c'est vrai qu'il a un dialogue avec sa mère aussi qui est très intéressant. Et pour moi voilà, c'est cette enquête au sein des psychés de ces deux personnages qui m'ont vraiment accroché et qui m'ont lancé dans la lecture de ce livre.
Oui, parce qu'il faut dire que Lester, il est quand même de bons conseils, parce que maintenant on sait qu'avant de jouer aux jeux vidéo, il faut lire Saint-Augustin, parce que on s'échauffe comme ça. Lucille Comeau.
Oui, alors c'est vraiment très réjouissant. En fait, c'est vraiment un livre libérateur à tout point de vue. Et aussi, je pense, quand on est une lectrice, parce que elle nous donne à lire un personnage féminin qui est assez inédit. Mmh. Et d'ailleurs, c'est totalement thématisé dans le texte. Il y a un passage où elle parle notamment de la ménopause et de ce que c'est qu'être une femme ménopausée, jusque dans les détails physiques. D'ailleurs, c'est assez drôle. Et elle dit, personne dans la littérature n'a jamais écrit ce type de personnage, ni homme, ni femme. C'est assez drôle. Peut-être pour tempérer un peu, même si j'aime beaucoup le livre, moi, ce que j'aime justement, c'est son étrangeté et son rapport assez... on le sent à la fois conflictuel et amoureux au roman américain, parce qu'il y a une efficacité, pas seulement même dans la langue, je trouve, dans la manière de construire des scénettes, de construire des personnages en quelques touches. Là, Léonie, par exemple, hôtesse de l'air, qui n'aura plus aucun rôle par la suite, qui est très, je trouve, anglo-saxonne. C'est vraiment une grande efficacité. Il y a des dialogues à mourir de rire qui sont vraiment presque même télévisuels. Moi, ça me fait penser à des très bonnes séries américaines. En revanche, j'aime moins... tout ce qui est des Français, j'allais dire, où les moments où le sérieux l'emporte et où je trouve qu'on on quitte l'espèce de hors-sol un peu foufou de la narration pour s'abîmer, je trouve, un peu dans des considérations très sérieuses. Bon, il y a l'irruption des attentats au Bataclan qui, moi, je trouve, plombe un peu le récit et donne lieu à des dialogues ou à des conversations entre les personnages qui, moi, me paraissent moins intéressants et qui c'est dommage, qui cassent un peu le rythme. Et de la même manière, le rapport entre... J'aime énormément les deux personnages, vraiment, Sylvie et Lester, donc Absalom, Absalom. Mais leurs dialogues, quand ils sont trop graves, quand ils touchent, bon, on va pas raconter, mais aux secrets, qu'on a un peu deviné quand même, un peu, beaucoup même, qui sont amenés, parfois, je trouve que ça alourdit beaucoup le récit, qui n'a pas besoin de ça. Enfin, on pouvait rester dans cette espèce de folie un peu hors contemporain. Et juste, je veux citer un exemple sur la manière parfois de traiter le contemporain, justement avec grande légèreté, c'est le moment où Sylvie va à l'Alliance française de ce bled là où elle habite en Caroline du Nord. Et où elle est absolument fascinée par un écran de télévision où c'est une sorte de pub pour la France. Donc il y a la Tour Eiffel, il y a tous les monuments de Paris, il y a la gastronomie, etc. Et il y a Zlatan Ibrahimovic qui, je sais pas, en montre ses grands gestes au PSG avec un grand sigle PSG. Et elle tombe en adoration absolue devant cette espèce de clip qui est décrit, mais de manière totalement étrange. Là, pour le coup, c'est familier parce que c'est Paris, c'est la France. Mais la manière dont c'est décrit, dont est décrite sa réaction, bon, on comprendra après.
On comprendra après,
voilà.
Chose,
mais c'est totalement fou. Et je trouve que ça pourrait toujours être comme ça, parce que c'est ça qu'on veut. Et que parfois, c'est... Bon, c'est pas dommage, mais en tout cas, je perds un petit peu cette légèreté.
Oui, moi, c'est vrai que j'étais très sensible à l'humour de ce livre, qui n'était pas la qualité la plus évidente chez Agnès de Sartre depuis 22 ans qu'elle écrit. Moi, c'est un écrivain que je suis vraiment avec beaucoup d'intérêt et souvent de plus que ça dans son parcours. Et moi, c'est vraiment cette veine-là de romans américains, mais c'est vrai que vous l'avez dit, elle est également traductrice, hein, Agnès de Sartre, et il y a quelque chose qui doit infuser en elle, et je reprendrai ce mot de libératoire, c'est bien ça que vous avez dit, Lucille Comeau.
Libérateur,
mais ouais, ça n'existe pas, libératoire.
Je suis pas sûre.
Ah mince, alors, bon, je vais le déposer, c'est pas grave.
Mais c'est bien, hein, c'est joli.
C'est vrai? Bon, ben, il y a quelque chose de libératoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Raphaël Léris? Tout Zlatan mis à part, parce qu'il y a plusieurs Zlatan dans ce livre.
Oui, je trouve que c'est profondément libératoire, mais pour moi la gravité est quand même le lieu dans lequel s'ancre le texte. Il part de là profondément, c'est-à-dire que les personnages veulent quitter une France qui a été frappée par Charlie Hebdo et dont on sent, enfin, les attentats, voilà, contre Charlie Hebdo et l'hyper-Richer, et on sent que c'est l'élan qui les pousse aussi aux États-Unis. Et voilà, et on est rattrapé en permanence. Donc c'est le premier texte d'Agnès de Sartre qui est à ce point-là ancré dans le réel, dans une temporalité. Merci beaucoup pour
ça. J'ai libératoire et j'ai aussi temporalité. Voilà,
dans une temporalité réelle. Avec, alors, ce truc que je trouve très amusant, c'est que donc elle, au départ, a commencé à écrire en 2015, et donc envoie ses personnages aux États-Unis parce que c'était la terre qui était encore un lieu d'espoir, puisque on se disait il va y avoir une présidente, Hillary Clinton. Donc c'était peut-être pas aussi génial qu'Obama, mais au moins il y avait un côté un peu excitant. Et donc pendant son écriture, elle se retrouve avec un Donald Trump élu, tout qui s'effondre pour ses personnages, mais une espèce d'ironie qui en partage pour le lecteur et pour elle, qui est assez, assez délectable. Enfin, ça aussi, ce serait une forme de consolation de la littérature sur la vie, qui est qu'après coup, on peut lire des livres dont on est plus malin que les personnages. Bref, moi, cette temporalité, cette gravité dans laquelle ça s'ancre, ça participe profondément de l'amour que j'ai pour ce livre, parce que je trouve que ça lui donne une profondeur très importante, qui n'est pas incompatible avec l'humour. Par exemple, il y a une description des discours qui sont faits à l'université après les attentats, où chacun se gorge de son importance et du sérieux avec lequel il parle de tout ça et se demande comment il va écrire son texte et l'importance est de bien placer les chevilles. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire d'une justesse et en même temps d'une drôlerie, d'un humour très grinçant qui, moi, m'a parlé de quelque chose de réel que j'ai pu ressentir.
Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai le sentiment décrit par Lucille Comeau, la gravité grave dans le texte fonctionne moins, en tout cas pour moi.
Moi, je trouve pas si grave que ça, en fait. Donc l'humour, en tout cas, je cautionne complètement. Il y a des séries, et moi qui suis plutôt bon public au cinéma, mais alors, en littérature, il faut le faire pour me faire rire. Et là, j'ai ri parfois. quoi. Ouais, ouais. Très, très, très fort. Par contre, je trouve que, par exemple, Vincent Lemcy n'est pas un personnage grave. C'est quelqu'un qui relativise les choses. Il y a des drames familiaux, qui vont être révélés. Il y a tout ça. Mais finalement, tout se déroule. Moi, je trouve une certaine platitude dans un quotidien. Presque quelque chose de positif, en fait, dans ce livre. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose qui m'a marqué. Alors, par contre, oui, sur ce qui est des attentats, etc., je trouve que c'est rajouté. C'est, pour moi, c'est rajouté, cette notion des attentats.
Pas les meilleures scènes.
Voilà, c'est vraiment, vraiment pas. C'est les scènes pour moi même enlevées. On a l'impression qu'elle écrivait son livre et qu'elle s'est tombée et qu'à ce moment-là, elle a adapté des scènes à ça. Et ça dénote. C'est indéniable. Ça dénote.
C'est le comment.
Oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est un petit peu forcé. Et, pour abonder dans votre sens, Raphaël, en effet, la gravité, quand elle est, par exemple, abordée, avec l'humour dans des scènes qui abordent par exemple la question du couple, moi c'est un des plus beaux couples que j'ai vu en littérature. La manière dont elle découvre, je vais pas raconter la scène, mais dont elle découvre l'adultère, mais elle se doutait, hein, ça court depuis le début, c'est une scène extrêmement drôle. Enfin, c'est une scène de cinéma de genre qui est parfaite. Et c'est pas du tout que drôle. Ce que ça peut produire comme réflexion sur, en effet, le secret, le couple, alors que ce sont des choses très triviales pour le coup, sont bouleversantes. Mais je trouve vraiment dommage, à l'inverse, tout le discours sur Trump, par exemple, on sent que c'est rajouté. La femme du professeur de portugais qui dit Trump is my president au milieu, ça fait effet de mention un petit peu rajouté. Et je trouve ça dommage parce que ça réancre le livre dans quelque chose qu'on a envie de quitter, en fait.
Raphaël Léris, dernier mot de défense, allez.
Non, mais je j'entends très très bien la lecture de Lucille et je pense que ça, enfin que c'est un livre qui est tellement riche que tellement de lectures sont possibles. Enfin, voilà, qu'il a vraiment le droit d'avoir un ou deux défauts. Je crois que ça n'enlève pas sa grande force.
La chance de leur vie d'Agnès de Sarthe, publié aux éditions de l'Olivier. Et c'est encore à vous, Raphaël Léris, je vous laisse boire une gorgée d'eau pour dire que votre coup de cœur est dévolu ce soir à toutes les femmes, sauf une, de Maria Pourchet, paru chez Fayard. Pourquoi ce coup de cœur ?
Alors, Maria Pourchet est une auteure dont j'ai lu les trois premiers romans avec beaucoup de plaisir. Il s'appelait Avancée, Roman d'un jour et Champion. C'était des trois romans de pure fiction et dont la caractéristique principale était la drôlerie est vraiment une très grande drôlerie. Des livres que j'ai lus, moi, personnellement, en riant aux éclats. Je les ai vraiment beaucoup aimés, notamment Champion, et on le disait en se disant, il y a probablement quelque chose d'un trou noir autour duquel elle tourne, qu'elle essaye d'éviter à force de blagues. Elle réussit très très bien, mais il va peut-être falloir qu'elle se confronte à ce caractère dur et sombre qui semble central. Donc là, le moment est venu, et ça passe donc par Toutes les femmes sauf une, qui est racontée par une narratrice dont on n'est pas tout à fait découragé de penser qu'elle est Maria Pourchet ou qu'elle a beaucoup à voir avec elle. Donc c'est au lendemain de son accouchement, dans sa chambre d'hôpital, elle a eu une petite fille et devenue mère, elle parle de la sienne. Et elle fait la liste de toutes les phrases qui lui ont été répétées par cette femme qui a voulu lui inculquer la soumission de son genre, apprendre à ne pas prétendre être ce qu'elle n'est pas. Toutes ces choses par lesquelles sa mère a voulu la briser comme elle-même avait été brisée, puisque c'est une femme très intelligente dont les possibles ont été restreints en permanence. Et donc c'est une sorte d'inventaire avant liquidation, pour essayer de transmettre autre chose que de la soumission à sa propre fille. Maria Pourchet écrit ce texte qui est d'une violence assez spectaculaire et d'une force tout aussi spectaculaire. Elle se collate vraiment très très bien et je trouve vraiment fascinant le fait d'être un écrivain qui avait fait de l'ironie la base même de son style, de se mettre complètement ailleurs et de faire ce texte de pure vérité qu'on se prend vraiment en plein visage et qui est pour moi une des révélations de la rentrée. C'est son quatrième texte, mais ça en fait une des révélations de la rentrée.
Et pourquoi on n'a pas encore parlé de ce livre davantage? Moi, heureusement que vous êtes là, parce que maintenant, je vais lire Maria Pourchet.
Si je peux révéler un petit secret de fabrication. Il était en lice pour le prix littéraire du Monde. Il s'est retrouvé en finale face à Jérôme Ferrari, qui l'a emporté à la fin, mais quand même, Ah, c'est même. La classe.
Très bien. Mais c'est vrai que voilà, le prix du monde est un des premiers de l'année. On a des listes partout et du coup, on ne fait peut-être pas suffisamment attention. Non, mais c'est vrai. Des listes, on va en reparler dans un instant. Mais du coup, j'étais passé à côté grâce à vous. Ce n'est plus le cas. Toutes les femmes sauf une de Maria Pourchet, publiée chez Fayard. Avant le petit salon, une page d'annonce pour dernier appel pour le prix du roman des étudiants France Culture Télérama, hein, puisqu'on parle de prix. Le roman des étudiants qui est quand même le seul prix littéraire délivré par les étudiants qui sont partout en France, vous le savez. Il y aura ensuite plusieurs rencontres en librairie, en université avec les auteurs qui sont prévues jusqu'au mois de décembre. Mais comment y participer? Je vais vous le dire. Qui peut y participer? C'est la question que vous vous posez. Tout étudiant, scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur peut y prétendre en envoyant la critique d'un roman, l'un des derniers qu'ils ont lu, ou soit par écrit, soit par une vidéo d'une minute. Ça, c'est l'exercice Claire Simon. Il y a un formulaire qu'on trouve en fouillant bien sur le site de France Culture. On pourra mettre un lien sur la page de la dispute. Il y a aussi une page Facebook. Il y a aussi un compte Twitter du roman des étudiants pour en savoir plus et s'inscrire. Mais les candidatures sont envoyées avant dimanche 7 octobre. À minuit, donc dépêchez-vous, si vous voulez être juré du prix du roman des étudiants France Culture Télérama, c'est le moment de vous manifester. Une fois par semaine, désormais, jour glissant, nous retrouvons le petit salon de Lucille Comeau. Et ce soir, il va s'agir de l'affaire Marco Koskas.
Oui, alors je vais retracer d'abord la chronologie de cette affaire. Il y a quelques semaines, les jurés du prix Renaudot publiaient leur première sélection. Une première sélection qui suscita aussitôt des réactions outrées. En cause, la présence d'un roman auto-édité distribué en exclusivité sur la plateforme Amazon, Bande de Français de Marco Koskas. La première réaction provient d'une ancienne libraire, Mélanie Le Sceau, qui dénonce un geste autodestructeur. Je cite sa tribune, « On ne va quand même pas payer Amazon, ce concurrent qui veut notre mort. » Ce à quoi répond dans un premier temps Patrick Besson, juré du prix Renaudot et responsable apparemment de l'inscription de Koskas sur la liste, dont il a par ailleurs défendu ardemment tous les autres livres. Patrick Besson, dans un entretien donné à Marianne, défend un choix esthétique et affirme ne pas avoir prêté attention à son mode d'édition. Tandis que les appels à boycott des libraires se multiplient, Marco Koskas publie une tribune dans Le Point, expliquant la solitude dont il souffre dans le milieu, lâché par les éditeurs, décrié par les libraires. Il fustige la tartufferie du système, je cite, et appelle à ce que le meilleur gagne. Un portrait dressé dans Libération le 1er octobre dernier laissait poindre quand même beaucoup de frustration chez l'auteur. Marco Koskas affirme avoir envoyé le manuscrit à tous les éditeurs chez qui il a d'abord été publié et n'avoir essuyé cette fois que des refus, pour des raisons commerciales selon lui, mais aussi, je cite, à cause des positions israélophobes du milieu. Dernier rebondissement finalement, il y a quelques heures, Bande de Français, dont on pressentait qu'il gênait tout de même l'ensemble des jurés aux entournures, avait disparu de la liste. Alors maintenant, les enjeux. Un tel ouvrage constitue, selon les libraires, une menace pour la chaîne du livre, ce système qui voit travailler en harmonie depuis la création jusqu'à l'édition, un auteur avec un éditeur et un libraire. En effet, le livre de Koskas saute par-dessus deux maillons de la chaîne, pas de travail d'édition, pas de conseil, pas de relecture et de diffusion, puisqu'Amazon est le seul distributeur à pouvoir vendre le livre. Si les libraires sont très vite montés au créneau, on remarque, et c'est étonnant, que les éditeurs eux sont restés assez silencieux, alors même que le procédé remet clairement en cause leur utilité. Marco Koskas s'est amusé à publier sur la page de garde de son roman, en lieu et place de la griffe habituelle de l'éditeur, le mot « Galligrasud », contraction des grandes maisons. Antoine Gallimard, interrogé à propos de la polémique, est resté totalement en dehors, affirmant que l'auto-édition n'était pas en soi une mauvaise chose. Évidemment, les journaux se sont tournés vers le pape de la littérature française, Bernard Pivot, qui, sans donner sa bénédiction à Koskas et Besson, a tout simplement dit « ça dépend de la qualité du livre, il ne faut pas avoir d'œillères ». Là réside sans doute un des nœuds les plus intéressants de l'affaire Koskas, celle de la responsabilité du juré de prix littéraire. Doit-il défendre un livre ou doit-il défendre le livre? Le critère esthétique doit-il primer ou doit-il se doubler d'un principe politique ou moral, celui de défendre le système littéraire français? Dans le cas Koskas, la question se complique d'un débat sur la qualité du livre en question et sur son caractère idéologique. Si le livre pose problème, ce n'est probablement pas seulement parce qu'il passe outre les libraires et pas seulement non plus parce qu'il est bourré de coquilles et de répétitions, ce que j'ai pu vérifier. Ce qu'il raconte, ce qui, selon son auteur lui-même, pose problème. Une histoire de Français vivant à Tel Aviv qui sent quand même beaucoup la testostérone et où, comme le dit le journaliste de Libération, tous les Arabes sont au mieux suspects et au pire des terroristes. Difficile dans ce cas de n'envisager que le critère esthétique. Que dit alors l'affaire Koskaz du système littéraire à la française ? N'a-t-on affaire qu'à un plan de com cynique ou est-ce un lieu intéressant de réflexion ?
Bah, on va tâcher de l'être pendant les quelques minutes qui nous restent pour cette émission. Alexandre Comte, vous êtes très content de ce sujet de Petit Salon. Vous avez
ça m'intéresse. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. Déjà, détrompez-moi, Lucille, si j'ai tort, mais je crois qu'il l'a envoyé carrément à 40 éditeurs.
C'est ce qui
est quand même énorme, c'est ce qu'il dit. En tout cas, moi, si je faisais partie ou si j'étais le 41e, j'aurais refusé son manuscrit aussi, parce que c'est une purge absolue. C'est vraiment très difficile à lire, les personnages sont plats. Passons. Par contre, quelque part, on peut se poser une autre question. On peut se mettre à la place du lecteur qui a envie de lire Marcos Koskaz, qui a lu ses précédents bouquins et qui, du coup, grâce à ce système, Amazon le prenant, alors sans les corrections, sans tout ça, peut avoir accès du coup à son bouquin. On peut aussi comprendre Marcos Koskaz qui, finalement, étant rejeté par toutes les maisons d'édition, accepte ce deal avec Amazon, puisque en tant qu'écrivain, il a envie peut-être de gagner sa vie et d'être lu. Donc, par contre, évidemment, je comprends la grogne des libraires, mais je pense qu'il y a un vrai débat. Alors, où c'est un épiphénomène, qui est lié, effectivement, à cette sélection du Renaudot, etc. Où ça se répète et Amazon continue cette chose. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un grand débat à avoir avec les éditeurs qui, comme vous le dites, ont été très silencieux, qui doivent se mener, quoi. Selon moi.
J'interviendrai plus tard. Raphaël Léris.
Alors, je crois qu'il faut rappeler que quand même le principe même du prix Renaudot, c'est que ce sont des jurés qui font leurs intéressants. Enfin, c'est quand même le point de départ. C'est que ce sont des gens qui aiment vraiment beaucoup faire leurs intéressants. Donc là, prétendre que Marcos Koskaz est un auteur
c'est et l'auteur. C'est tellement
vrai. Je vous remercie. D'une œuvre littérairement puissante. Écoutez, peut-être que c'était le cas en 79 quand ça a commencé. Je ne demande pas mieux qu'à le croire. Là, vraiment, je me suis imposé chaque page de cette purge sur mon petit téléphone, puisque donc il a fallu l'acheter en ligne. Et vraiment, c'est très très mauvais. Alors, moi qui râle, recevant le tout venant de la littérature française, me dis, mais les éditeurs ne refusent donc jamais rien. Bah, je suis contente de pouvoir constater qu'il y a quand même un niveau à partir
duquel... Ils en refusent des milliers et des milliers, mais vous ouais, savez bien, chaque année.
Voilà. Qu'ils ne rentrent pas dans la bagarre au moment des prix littéraires pour se disputer avec Besson, ça m'étonne pas non plus.
Ah oui, tout simplement en fait.
Plus que ça, voilà, parce que après, dans l'absolu, que Marcos Koskaz fasse son mauvais livre et qu'il le publie sur Amazon, j'ai du mal à. Enfin, il fait bien ce qu'il veut, c'est possible. Voilà, la question, c'est vraiment celle de. Des jurés du Renaudot qui ont voulu faire les intéressants et puis ça y est c'est passé on va faire autrement enfin moi j'ai du mal à voir autre chose qu'un épiphénomène dans cette affaire.
On peut imaginer et c'est même plus que probable que des bons livres soient auto-édités. Si un livre auto-édité
c'est une vraie question mais je suis pas sûre que ce soit forcément un prémisse à quoi que ce soit. Moi je peux imaginer que aucun bon livre ne puisse être auto-édité.
Vous le pouvez ou vous imaginez?
Non, je ne peux l'imaginer, mais je pense que le travail d'édition est absolument nécessaire. Je pense que même un bon livre a besoin d'être édité.
Oui, enfin bon, je vais pas recommencer, mais il y a quand même des éditeurs réels qui ne font pas le travail d'édition, donc c'est un autre problème. Étant entendu qu'il est fort probable que de bons livres existent en auto-édition, s'ils étaient sélectionnés pour des prix littéraires, est-ce que ça poserait un problème par rapport à la chaîne du livre, au libraire, au syndicat de l'édition, Alexandre Comte ?
Non, moi, ça me choque pas du tout. Alors, est-ce que le parallèle est valable ? Relativement, ça me forçait à Netflix et le cinéma. Si Amazon demain finalement embauche des éditeurs qui savent faire leur métier et décident du coup de devenir éditeurs eux-mêmes quelque part, ce qui serait un peu contraire à l'auto-édition. Dans ce cas-là, pourquoi pas ? Enfin, on est face à un système où moi je le compare un peu finalement malgré tout à la polémique autour de Netflix, à cette grande structure, grande entreprise a-t-elle le droit de diffuser des films dans des festivals, etc.
Pour qu'ils ne sortent pas en salle.
Voilà. Sans passer en fait, par les salles. Parce qu'en fait, on peut tout à fait publier, et c'est là que le débat est un peu biaisé, parce que ça, Marco Koskas, ni Philippe Besson, ni Patrick Besson, pardon, ne le disent. J'ai pas arrêté de faire cette confusion aujourd'hui.
Oui. Vous l'avez faite ce soir.
Voilà. C'est que, il a choisi Amazon pour une raison qui est totalement commerciale pour le coup. C'est que Amazon lui reverse 30% de droits d'auteur, ce qui est beaucoup plus, trois fois plus, à peu près, que ce qu'un éditeur reverse, voilà, du prix d'un livre.
C'est quand même la plateforme de vente la plus puissante pour les livres.
Voilà, et surtout en exclusivité. Mais il est tout à fait possible d'auto-éditer un livre et de le présenter à différentes plateformes avec lesquelles les libraires peuvent eux-mêmes entrer en négociation pour acquérir des stocks de livres de manière professionnelle pour les vendre. Là, le problème, c'est que le livre n'est en effet accessible que sur Amazon. Et ce que disent les libraires, c'est dans le cas où le livre prend une ampleur, bon là, ce ne sera pas le cas, mais où par exemple le livre... Mais en fait, à la limite, on s'en fiche de la qualité, ça pourrait être un très bon livre, à le prix Renaudot ou à un autre prix, qui sait, ils ne peuvent pas le vendre. Donc ça
si,
c'est quand même
vendre. Si,
je crois que ça pose des gros problèmes légaux.
Ils peuvent le commander à Amazon, effectivement, ils sont obligés de passer par Amazon, et ça leur, c'est difficile pour eux, parce qu'effectivement, Amazon, comme disait la libraire que vous citiez tout à l'heure, est un concurrent qui a envie de tous les manger, et on sait que les libraires sont fragiles aujourd'hui.
Mais du coup, il faudra qu'ils augmentent le prix de vente pour avoir une marge. Si le libraire commande chez Amazon, ça n'a aucun intérêt qu'il le vende au prix d'Amazon.
Bah, en tout cas, moi, j'ai entendu certains libraires, effectivement, je comprends la solidité, mais j'ai entendu certains libraires dire... moi, si on me demande le livre, je le commanderai pour mon client, mais je ne l'exposerai pas sur mon étal.
Raphaël Léris.
Moi, je pense pas que ce soit aux écrivains malheureux ou pas de ne pas avoir trouvé d'éditeur, enfin ou voilà, ayant choisi l'auto-édition, d'être responsable de la chaîne du livre. En revanche, je pense que les jurys littéraires qui sont des institutions et donc qui défendent un système, et ben très bien, admettons un système qui va de l'éditeur au correcteur au libraire. Oui, je pense que c'est ça devrait être faire partie de leur responsabilité de faire en sorte que ce qui garantit aussi la force de frappe de la littérature française, le prix unique du livre, ça fait aussi, enfin ça participe aussi du statut de la littérature en France. Donc je pense que c'est à une institution de veiller aussi à ce que ceci soit préservé. Ça n'est pas aux écrivains qui font bien ce qu'ils peuvent et ce qu'ils veulent.
Lucille.
Je reviens sur ce que vous disiez, Raphaël. Vous disiez c'est pour faire leur intéressant. Bon, on comprend en effet, c'est un vrai plan de communication. Mais en l'occurrence, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pour faire son intéressant justement sur la question de la chaîne et mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de cette grande institution qu'est la littérature française, ou est-ce que c'est le contenu du livre qui est là pour faire polémique?
Pour le coup,
parce que de fait, c'est totalement intriqué.
Alexandre Comte.
Et sauf que la Broye, effectivement, aime beaucoup Marco Koskas. Décidément, on a du mal aujourd'hui avec son nom. Mais voilà, aime beaucoup Marco Koskas et a toujours défendu son œuvre. Donc, je pense qu'il a vraiment, pour le coup, choisi pour la qualité selon lui.
La qualité polémique aussi de l'œuvre elle-même.
Pour moi, non. Enfin, après, je suis pas dans sa tête. Mais...
Bon, Raphaël Léris.
Il y a déjà eu un cas de livre auto-édité sélectionné pour le Renaudot. C'était déjà poussé par Patrick Besson et c'était Marc-Edouard Nabe, qui est un petit sujet de polémique, qui n'est pas tout à fait politiquement au même endroit que Marco Koskas. Mais voilà, je pense que ça fait partie du cadre faire son intéressant.
Bon, et bien voilà ce qu'on pouvait dire ce soir, en tout cas ici, de cette affaire Marco Koskas, bon, qui n'est plus dans la liste du Renaudot, la dernière liste en date. Voilà. Regardez ce qui reste, pour savoir qui sera lauréat dans quelques semaines maintenant. On fera bien quelque chose sur les prix littéraires, comme on le fait chaque année. On les passera tous en revue en une seule émission pour que vous n'ayez rien raté. Et avant de conclure cette émission, l'affaire du jeu de la dispute avec Sarah Dion, porteuse d'une part de la question et de la réponse d'hier soir, Sarah.
La question était: quel est le vrai nom de Chili Gonzalez? Jason Charles Beck.
Aucun commentaire. Ce soir, des places à gagner pour le film La saveur des ramen d'Eric Kou, qui est sorti ce mercredi sur les écrans. Quelle est la question, Sarah?
Au sein de quelle ville japonaise trouve-t-on le musée du ramen?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter notre émission et vous abonner à son podcast. Demain, on vous attend au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, comme tous les vendredis, pour une dispute consacrée aux séries. Nous serons en compagnie de Pascaline Potvin, Lucille Como et Olivier Joyard à notre affiche Killing Eve de Phoebe Waller-Bridge, diffusée sur Canal+. Killing Devilstein, c'est sur Canal+, également, ou c'est sur OCS? Canal+, aussi, hein. Et puis, Coin Coin et les Inhumains, la série de Bruno Dumont, on va dire Petit Quinquin, saison 2, qui a été diffusée sur Arte, qui est disponible aussi en DVD chez Arte Édition. Et puis, coup de cœur d'Olivier Joyard pour la saison 4 du Bureau des Légendes, qui ne saurait tarder.